Il est 6h57 sur Europe 1. Très bon réveil, très bonne journée. Je vous retrouve demain dès 5h avec toute l'équipe du 5-7. Pour l'heure, c'est le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Et ça, c'est pour vous mettre à l'aise ce matin avec Europe Matin. Vous avez rendez-vous, ce sera juste après 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed, notre santé. Ce matin, la musique qui serait l'un des meilleurs anxiolytiques. On prend soin les uns des autres, on en a bien besoin. Et puis tiens, puisqu'on est dans la musique, voilà une musique qui fait du bien aux fans de foot en tout cas. C'est la reprise de la Ligue des Champions ce soir. Les Parisiens qui retrouvent l'Europe, Manchester United, le nouveau monde contre l'ancien, pour Virginie Fulpin dans son édito sport. Rennes qui joue les Russes de Krasnodar, soirée spéciale sur Europe 1 à partir de 20h avec Lionel Rousseau et le service des sports. 6h57, mardi 20 octobre 2020 sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changer. Et c'est toujours à la une, bien sûr, l'émotion, l'enquête après l'assassinat de Samuel Paty. Gérald Darmanin a donné le ton hier matin sur Europe 1. Le débat aussi. Jean-Pierre Aubin, à 8h15, invité d'Europe Matin. C'est un lanceur d'alerte, Jean-Pierre Aubin. C'est lui qui a écrit ce rapport oublié de 2004. Auteur ensuite de comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école. L'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk, à 8h15. À 7h40, c'est très lié, bien sûr, mais c'est des enfants dont on va parler. Mon invitée organise des ateliers d'autodéfense intellectuelle auprès de ses élèves. Elle est enseignante au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. J'ai voulu l'inviter parce qu'elle fait confiance à ses élèves. Cette enseignante, à leur intelligence, à leur esprit critique, penser, ça s'apprend. Voilà ce qu'elle dit. Après les vacances scolaires, Sophie Mazet, comme nombre d'enseignants, seront face à ces élèves. Il faut se préparer à parler de liberté d'expression, de caricature et du drame, bien sûr, de l'assassinat de Samuel Paty. Comment compte-t-elle s'y prendre ? Le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Voilà quelques éléments du programme. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 6h59 et nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Hey, coucou Mathieu. Le vent est dans le vent. La grande star de cette journée météo, c'est le vent et même des journées qui viennent puisqu'il ne va pas cesser. Le vent, il y en aura énormément dans le midi, dans le vent d'Autan, 100 km/h. Sur le sommet des Pyrénées, 160 km/h. Et puis il y en aura aussi sur le secteur des Puy-Cévenol, le Languedoc, les Cévennes, le Delta du Rhône, avec des rafales à 90 et 100 km/h également. Bon, vous voyez, en général, même sur nos régions du nord, ce sera du 50 à 70. Alors sur le nord, la Picardie, la Normandie, la Vallée de la Loire, la région parisienne, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Pays Basque, si vous avez cité, si vous avez entendu citer cette région, la vôtre, eh bien vous aurez des pluies parfois soutenues, parfois modérées, mais enfin c'est un temps à la pluie, y compris sur la capitale. Sur les Cévennes, je l'ai dit, ce sont des pluies fortes et Cévenol, et puis les éclaircies quand même provisoires sur l'Alsace, la Franche-Comté, sur la ville de Lyon et sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Les températures maximales sont en hausse, ça c'est une autre surprise du jour. 16 degrés à Paris et Lille, je m'en étrange, 17 à Dijon, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Nice et Bordeaux. Lyon et Toulouse, 20 degrés, 21 à Marseille. Dites 21.
Reprenez votre souffle, mon cher Laurent, et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changer. Il est 7h.
Bien sûr, a posteriori, maintenant, si on regarde les choses maintenant, on regrette cette publication.
Les regrets de l'imam de la mosquée de Pantin, mais c'est déjà trop tard. Gérald Darmanin a décidé la fermeture pour 6 mois après la diffusion de la vidéo mettant en cause l'enseignant assassiné. Une série d'hommages à Samuel Paty se prépare, marche blanche ce soir, hommage national demain à Paris, et l'éducation nationale réfléchit à un moment solennel, le jour de la rentrée scolaire, après les vacances. Jamais une campagne de vaccination contre la grippe n'avait démarré à ce point sur les chapeaux de roue. Une semaine après le lancement de la campagne, les pharmaciens craignent la rupture de stock. Dans ce journal, la mobilisation contre un méga projet d'usine de méthanisation près de Nantes. Et puis la Ligue des Champions, le retour avec PSG Manchester, mais aussi Rennes qui reçoit les Russes de Krasnodar devant 5000 spectateurs. Soirée spéciale sur Europe 1.
Juste après ce journal, les effets de la crise économique et sanitaire sur les entreprises du CAC 40. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Vous allez l'entendre, l'éclairage éco de Nicolas Barré. L'Iran exsangue, durement frappé par le Covid. Le regard international de Vincent Hervouette. Le retour de la Ligue des Champions, donc c'est l'édito sport de Virginie Fulpin aussi. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
J'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin.
C'était hier soir sur TF1. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait 34 opérations de police contre des personnes et des associations proches de la mouvance islamiste et donc aussi la fermeture administrative de la mosquée de Pantin. Pourquoi cette décision, Pierre Herbulot ?
Ce que reproche Gérald Darmanin aux dirigeants de la mosquée, c'est d'avoir relayé une vidéo sur sa page Facebook, la fameuse vidéo de ce parent d'élève qui dénonce les cours de Samuel Paty. Marmed Henich, le recteur de la grande mosquée de Pantin, a pris note de la décision du ministre de l'Intérieur. Écoutez comment il se défendait dimanche soir.
Ce qui nous a heurté, c'est pas l'affaire des caricatures, c'est juste la partie où il y avait une demande qui est musulman parmi les élèves, qui lève le doigt et après qui sortent. On peut pas permettre ce type de distinction des élèves au sein de l'école de la République. Bien sûr, a posteriori, maintenant, si on regarde les choses maintenant, on regrette cette publication.
Dans les commentaires sous le poste, l'adresse du collège et le nom du professeur apparaissent. Pourtant, depuis l'attentat, la vidéo a été supprimée à la place de messages. Un communiqué pour condamner la sauvagerie de l'assassinat de l'enseignant. Un autre pour appeler à rejoindre la manifestation d'avant-hier, place de la République. Ça ne change rien pour le ministre de l'Intérieur qui considère que la mosquée a participer via ses réseaux sociaux à une campagne d'intimidation.
Pierre Herbulot, 15 personnes sont en garde à vue ce matin, dont 4 collégiens. Certains auraient reçu de l'argent du terroriste pour qu'il lui désigne Samuel Paty devant le collège.
La peur et l'obscurantisme ne l'emporteront jamais. C'est ce que disait le Premier ministre hier soir, Jean Castex, qui annonce d'autres actions, notamment contre la haine en ligne.
D'ailleurs, les patrons France de Facebook, Twitter, Google, TikTok et Snapchat sont convoqués ce matin par la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Pas. Ils vont discuter de la lutte contre le cyber-islamisme.
Et pour défendre la liberté d'expression, les 13 régions de France vont publier un livre de caricatures politiques et religieuses qui sera distribué dans les lycées. Le président des régions de France, Renaud Muselier.
Nous, présidentes et présidents des régions de France, responsables politiques, affirmons que la caricature est une composante fondamentale de la liberté d'expression. Le délit de blasphème n'existe pas. Et dès lors qu'il s'agit d'humour, notre droit protège l'outrance et la parodie. C'est pourquoi nous, présidentes et présidents des régions de France, prenons aujourd'hui l'initiative de préparer la publication d'un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes. Nous associerons le ministère de l'Éducation nationale pour que cet ouvrage puisse être mis à disposition de tous les lycéens de France.
Renaud Muselier, le président des régions de France, au micro d'Aurélie Herbemont.
Une marche blanche à la mémoire de Samuel Paty se déroulera en fin d'après-midi à Conflans-Sainte-Honorine et un hommage national est organisé demain dans la cour de la Sorbonne à Paris.
De son côté, le ministère de l'Éducation nationale réfléchit à l'organisation d'un temps de recueillement à la rentrée. Il s'agit de faire de ce 2 novembre un moment à la fois solennel et républicain. Les informations de Virginie Rivard.
Le maître mot pour Jean-Michel Blanquer, c'est « pas d'improvisation ». Le ministre l'a martelé au chef d'établissement qu'il a reçu hier. Il souhaite un message vertical, fort, sur la laïcité et les valeurs de la République. Parmi les pistes envisagées, un texte classique ou d'actualité qui serait lu partout, dans chaque cour d'école, au primaire, au collège et au lycée, avant une minute de silence. En parallèle, le ministère travaille à l'élaboration de conseils, de recommandations à adresser à tous les professeurs et chefs d'établissement en cas de contestation, de refus de respecter la minute de silence. Le ministre a également évoqué la possibilité de faire appel à la société civile, avocats, journalistes, pour débattre avec les élèves. Les enseignants et personnels de direction demandent de leur côté à retarder l'arrivée des élèves le lundi 2 novembre, peut-être à 10h, pour qu'ils puissent d'abord échanger entre eux sur tous ces sujets. C'est le Conseil des sages de la laïcité créé par Jean-Michel Blanquer qui va être sollicité tous les jours durant ces 2 semaines de vacances scolaires.
Et je vous le redis, à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ». On parle aujourd'hui de Jean-Pierre Aubin comme d'un lanceur d'alerte après ce rapport enterré de 2004. Il est 7h06 sur Europe 1. Cela fait pile une semaine que la campagne de vaccination contre la grippe a commencé et c'est déjà la ruée sur les pharmacies.
Oui, un chiffre parlant. En 3 jours, il s'est vendu autant de vaccins qu'en un mois habituellement. Les professionnels craignent donc la pénurie, malgré la commande de 30% de doses supplémentaires. Écoutez le reportage de Laura Taouchanoff.
Dans un frigo derrière le comptoir, les boîtes de vaccins disparaissent à une vitesse éclair.
Il doit rester 3 doses disponibles, les autres elles sont pré-réservées.
Camille Lefranc, la titulaire de cette pharmacie parisienne, a commandé le double, mais tout est parti en 3 jours.
On a été obligé à un certain moment de prioriser nos délivrances. Ça nous est triste parce que on est des professionnels de santé et nous, derrière au comptoir, on dit aux gens des vaccins, c'est compliqué. Vous avez la
carte de la pharmacie ? Et même pour les personnes à risque comme Daniel, il faut parfois faire plusieurs officines pour réserver son vaccin.
J'ai un peu plus de 70 ans. Je suis arrivée à la pharmacie qui m'a dit qu'elle était en rupture et qu'il n'y aurait pas de vaccin avant la mi-novembre. Je trouve ça déplorable.
Un manque d'anticipation des autorités publiques déplore Pascal Fontaine, le directeur commercial des pharmacies Lafayette.
De mars à septembre, il devait être capable de reproduire pour vacciner en masse la population. Ou alors on ne communique pas, on ne surcommunique pas sur le fait de se faire vacciner contre la rique. Sinon vous créez un besoin auquel on ne peut pas répondre.
Et même si 6,5 millions de vaccins doivent encore être livrés, le groupe pharmaceutique prévoit une rupture de stock d'ici 10 jours.
Et pour le Covid, le cap des 2000 patients en réanimation est désormais franchi, une première depuis mai dernier. Depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu, 20 000 personnes ont été contrôlées, 3 000 verbalisées. Sachez aussi que l'Irlande est le premier pays de l'Union européenne à reconfiner l'ensemble de sa population, mesure qui entre en vigueur demain soir pour 6 semaines. Reconfinement aussi au Pays de Galles, mais pour 2 semaines.
La plus grande usine de méthanisation jamais construite en France. C'est un projet qui suscite la colère des habitants d'une petite commune près de Nantes. On va en parler dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h09 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani.
Non à l'usine à gaz, c'était le maître mot de la manifestation d'hier soir dans la petite commune de Corcouët-sur-Lorgne, à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes. Une marche pour protester contre le projet d'usine de méthanisation.
La plus importante jamais construite dans notre pays pour transformer lisier et fumier en biogaz. Charles Guyard a rencontré des opposants très remontés contre ce projet hors norme.
Pendant le confinement, on a commencé à avoir des angoisses et on s'est dit qu'il faut absolument alerter les gens.
Ce que les habitants de Corcouët-sur-Lorgne ont découvert au printemps grâce au collectif emmené par Mauricette Couéron, c'est un projet d'usine XXL à deux pas de chez eux.
8 cuves d'à peu près 20 mètres de diamètre et surtout une cheminée qui va atteindre 50 mètres de haut.
Voilà donc à quoi devrait ressembler le plus grand méthaniseur de France, prévu pour 2023 en plein milieu des champs. Odeur nauséabonde, risque d'accident, chute de l'immobilier, les désagréments sont nombreux.
On parle de 180 camions jour.
Imaginée par une coopérative locale, cette usine vise à transformer chaque année 680 000 tonnes de lisier en biogaz. Plus de 200 agriculteurs des environs sont partie prenante, parmi eux Alban Sauvager.
Les gens comprennent plus du tout ce qu'on fait. Oui, on a aussi besoin de développement. La société voudrait une agriculture plus bio. De toute façon, on y vient. Mais il faut nous laisser un petit peu de temps d'adaptation.
S'agissant d'un site privé, seule la préfecture a le pouvoir de stopper le projet. En attendant, si les pétitions et marches organisées ne changent rien, certains riverains évoquent déjà la possibilité de créer une nouvelle ZAD. Corcouët-sur-Lorgne, Charles Guyard, Europe 1.
Prudence dans 4 départements du Sud-Ouest. Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège sont en vigilance orange à l'approche de la tempête Barbara. Les vents ont déjà atteint 192 km/h à Irati.
Le foot ce soir est le retour de la Ligue des Champions. PSG, Manchester United et Rennes qui reçoit les Russes de Krasnodar.
Et c'est la première fois que le club breton participe à la compétition. Le stade rennais monte en puissance. Après avoir remporté la Coupe de France, il découvre la plus belle des compétitions. Et en ville, Cyril de la Morinerie, on attend le coup d'envoi de ce soir avec beaucoup d'impatience.
C'est l'effervescence sur le plateau de TV Rennes. Dans toute la ville, on ne parle que du match, confirme le présentateur de l'émission Pleine Lucarne, Vincent Simoneau.
C'est le match attendu depuis des décennies. C'est l'aboutissement de toute l'histoire du club.
Et Jean-Pierre, supporter de Rennes depuis un demi-siècle, a des frissons rien que de penser à cet hymne de la Ligue des Champions qui va résonner ce soir.
D'entendre la musique, c'est génial. C'est là que c'est le plus émouvant. Penser qu'on a à voir cette musique-là à Rennes, c'est extraordinaire.
D'ailleurs, sur la façade de l'hôtel de ville, une banderole intitulée « Musique sacrée » a été accrochée. Mais attention, ce n'est pas un concert, mais un match de foot, rappelle le jeune entraîneur de Rennes, Julien Stéphan.
C'est pas la musique que j'attends, c'est le match que j'attends. La musique, on va pas gagner des points.
En revanche, une autre musique sacrée en Bretagne va résonner. Ce soir, 5000 personnes vont entonner ce chant typiquement breton au stade.
Violette, aussi je t'aime.
Les autres supporters pourront voir la première mi-temps dans un bar, la deuxième chez eux, ici, dans la capitale bretonne. Les bistrots doivent fermer à 22h. Rennes, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Voilà, il va y avoir de l'ambiance à Rennes. Une soirée spéciale sur Europe 1 pour le retour de la Ligue des Champions des 20h jusqu'à 23h30, présenté par Lionel Rousseau.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Samuel Paty est mort pour avoir enseigné la liberté d'expression, la caricature, le débat à nos enfants. L'enquête toujours à la une, bien sûr, et les mesures prises par l'exécutif détaillées depuis l'interview de Gérald Darmanin sur Europe 1 hier matin. Et les enfants, comment perçoivent-ils ce drame, éloignés qu'ils sont par les vacances scolaires notamment? Comment leur parler à la rentrée? Mon invitée, Sophie Mazet, enseigne et mène avec les élèves ce qu'elle appelle des ateliers d'autodéfense intellectuelle. Comment aiguiser l'esprit critique des ados? Peut-on leur parler de tout? Les profs sont-ils soutenus? Je lui poserai la question. C'est au programme du Tête à Tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 7h14. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Des dizaines de milliards d'euros de profits envolés. On commence à mesurer l'impact de la crise du Covid sur les grandes entreprises françaises. Le choc est sans précédent.
Oui, c'est bien simple. Au premier semestre, la fameuse première vague du virus a réduit à néant les profits des entreprises du CAC 40. Les 40 plus grandes entreprises françaises n'ont réalisé collectivement aucun bénéfice, alors qu'en rythme de croisière, elles engrangent, disons, une quarantaine de milliards d'euros de profits sur un semestre. Le choc est donc considérable, plus profond que lors de la crise financière de 2008. À l'époque, les groupes du CAC 40 avaient, malgré la crise, dégagé un profit de 6 milliards d'euros. Et des profits à zéro, on ne le répétera jamais assez, ça signifie moins de capacité pour investir, donc pour préparer l'avenir, et puis accessoirement, moins de recettes fiscales pour l'État.
Ces entreprises, qui sont des piliers de notre économie, ne sont toutefois pas toutes logées à la même enseigne.
Non, alors il y en a qui tirent bien leurs épingles du jeu. C'est le cas par exemple du groupe pharmaceutique Sanofi, c'est le cas aussi de sociétés du secteur technologique comme Dassault Systèmes, une des meilleures performances de tout le CAC 40, ou encore d'une société moins connue qui vient de faire son entrée dans le CAC 40, Worldline, spécialisée dans les paiements électroniques. Dans
le secteur Sanofi, comme le paiement électronique, on devine pourquoi ça va bien pour eux.
Exactement. Dans un secteur aussi plus traditionnel de la distribution, un groupe comme Carrefour ne s'en sort pas mal avec un résultat à l'équilibre sur le semestre. Mais évidemment, tout ça contraste avec les difficultés vraiment profondes d'un Renault, d'un Airbus, qui paye extrêmement cher la crise du Covid et dont l'activité va surtout rester durablement inférieure à ce qu'elle était avant l'émergence du virus.
Ce que l'on peut retenir aussi, Nicolas, c'est que malgré la crise, les grandes entreprises françaises en ont sous le pied, comme on dit.
Oui, ça c'est très important. Il faut quand même rester un peu optimiste. Leur situation financière reste saine, leurs bilans sont solides. Alors évidemment, elles ont augmenté leur endettement pour faire face à cette mauvaise passe. Mais selon les calculs du cabinet d'audit EY, cet endettement reste inférieur à ce qu'il était après la crise de 2008. Et si ces grandes entreprises ont réduit leurs investissements, eh bien il s'agit plus souvent de reports que d'annulations. Ça veut dire que nos grandes entreprises ont maintenu de fortes capacités de rebond. Et dans la crise que nous traversons, eh bien c'est un message encourageant.
EY, c'est Ernst & Young.
Exactement.
Je suis très ancien monde, un peu conservateur parfois. Nicolas Barré, voilà, merci beaucoup. 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Nicolas, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nous partons pour l'Iran. Écoutez bien, 337 morts du coronavirus en une seule journée, c'était hier en Iran. Nouveau record officiel.
20% de plus que la semaine dernière, précédent record. Tous les week-ends, les grandes villes ont été confinées. Résultat, un fiasco éclatant. Le président Rouhani a une réponse. Encore plus de bourrage de crâne. Hier, il s'est montré à la télé, entouré de professionnels de santé. Il a prescrit plus de tests. Rompre la chaîne de transmission est une guerre sainte. On connaît la musique. Le porte-parole de la santé a dénoncé la négligence dans l'utilisation des masques. Ce qu'ils ne disent ni l'un ni l'autre, c'est que les hôpitaux sont des mouroirs, le système de santé à bout de souffle, l'administration peuplée d'incapables et de cyniques. Les sanctions américaines ont ruiné les Iraniens. Et entre mourir de faim en restant terré chez soi au chômage et risquer la mort en voulant gagner sa vie, eh bien leur choix est vite fait.
L'épidémie, depuis 8 mois, a fait officiellement plus de 30 000 morts.
Personne ne croit plus les chiffres officiels ou les médias officiels. Il y a pile un an, des centaines de milliers de manifestants descendaient dans la rue pour contester le régime. Les miliciens ont tiré dans le tas, faisant 300 morts et des milliers d'arrestations. Les mollahs ont été désarçonnés. L'épidémie les a remis en selle. Hier, ils ont fièrement célébré la fin de l'embargo de l'ONU sur les armes. En 2015, l'accord sur le nucléaire avait programmé la levée de l'embargo. Au bout de 5 ans, on y est. L'Iran va donc pouvoir relancer la course aux armements. Il ne s'est jamais privé de livrer des missiles aux Houthis du Yémen, aux milices chiites irakiennes, au Hezbollah en Syrie, comme au Liban, sans parler du soutien apporté au Hamas à Gaza. On estime que l'Iran verse 1 milliard de dollars par an l'argent aux groupes armés qui servent ses intérêts. Et on ne sait combien de centaines de milliards ont été dépensés pour se doter d'une filière nucléaire. Ceci explique que les petits du chat soient morts et qu'il n'y ait plus un sou pour combattre le coronavirus.
Merci Vincent Hervouette. 7h19 sur Europe 1. L'édito sport Virginie Fulpin et la reprise de la Ligue des Champions avant de retrouver Stéphane Bern. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est le grand retour de la Ligue des Champions ce soir. Une première pour Rennes qui reçoit Krasnodar. Pour le PSG, c'est plus habituel. Les Parisiens accueillent Manchester United au Parc des Princes. Et pour vous, Virginie, c'est comme si le Nouveau Monde recevait l'Ancien.
Bah, d'un côté, vous avez le PSG qui rêve d'un futur radieux et de l'autre, Manchester United qui est nostalgique de son glorieux passé. Les deux clubs ne vivent pas exactement le moment présent de la même manière. Alors que les supporters parisiens ne s'énervent pas, je sais que le club a 50 ans et une vraie histoire, mais je n'insulte personne et surtout pas l'avenir si je dis que c'est surtout maintenant qu'on attend de le voir briller en Europe. Alors que Manchester United a déjà et souvent dominé le continent, mais aujourd'hui, le club n'est même plus le meilleur de sa ville. Manchester City est largement passé devant. Bah oui, on ne se remet pas comme ça de la fin du cycle Sir Alex Ferguson. L'entraîneur iconique a mené son équipe au sommet, mais aujourd'hui, bah, c'est le trou d'air. Je ne suis pas sûre que le PSG ait lui vraiment trouvé l'entraîneur de ses rêves en la personne de Thomas Tuchel, mais la dynamique est bien du côté parisien et peu importe les mauvais souvenirs. Oui, Manchester United est venu punir Paris en 8e de finale de cette Ligue des Champions il y a un an et demi, mais c'était dans le monde d'avant, ça. Depuis, les Parisiens ont vaincu leurs démons et atteint la finale de cette compétition. Leur adversaire n'y a même pas participé la saison dernière.
Edinson Cavani ne jouera pas avec son nouveau club Manchester United contre le PSG.
On n'aura donc pas droit à l'éternelle histoire de l'ex qui marque un but contre son ancien club. Les Parisiens n'ont même pas de quoi jouer à se faire peur. C'est pas très drôle ce nouveau monde. Bon allez, trêve de plaisanterie. En soi, Edinson Cavani, pour moi, c'est un symbole entre le PSG et Manchester United. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est là qu'il a passé ses plus belles années de footballeur. Maintenant, il vient de rejoindre Manchester à 33 ans. Avant, les grands footballeurs jouaient à United au pic de leur forme et éventuellement, ils venaient en pré-retraite à Paris. Ben là, c'est le contraire. D'ailleurs, Paul Scholes, qui est une légende du club anglais, a critiqué l'avenue d'Edinson Cavani en disant que ça aurait été une super recrue, mais il y a 5 ans. Tout ça ne veut pas dire que le PSG va forcément gagner. Manchester a toujours de très bons joueurs, évidemment, et peut faire un exploit d'un soir. Vous entendez ce que je dis ? Le Nouveau Monde, c'est celui où Paris est un ogre et Manchester un petit pousset.
Je prends. Ça me va. Virginie Fulpin, l'édito sport et une soirée spéciale dès 20h autour de Lionel Rousseau et du service des sports PSG Manchester United, Rennes, Krasnodar. N'oublions pas les Rennes, bien sûr. 7h23. Et comme tous les jours, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, une expression qui vous est totalement inconnue. J'imagine, vous, le frondeur, le journaliste que rien n'arrête, le fonceur de l'info, c'est... se tenir à carreau.
Ah, je vous rassure Stéphane, comme beaucoup de personnes, il m'arrive de me tenir à carreau, à savoir rester à sa place, quelque part, avoir une certaine réserve. Mmh. D'où vient cette formule Stéphane ?
Eh ben des cartes à jouer. Dans la bataille, chaque couleur a sa symbolique. Le cœur, c'est la cavalerie. Le pic, l'infanterie. Le trèfle, le fourrage. Et le carreau, l'arbalète. Le carreau était le nom de la flèche qui servait de projectile pour cette arme. On se tenait à carreau quand on était un garde bien positionné derrière son arbalète, prêt à décocher sur l'ennemi, mais on se tenait également à carreau quand on se mettait à l'abri du danger en veillant à se mettre hors de la portée des tireurs.
Et c'est la seule signification ?
Le drame, Mathieu, c'est qu'il est loin de là. Et comme il y en a pléthore, vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Pendant la Révolution, au moment de rendre la justice dans la salle du tribunal révolutionnaire, le public se trouvait sur une partie d'allée recouverte de carreaux. Et il n'avait pas le droit de s'exprimer. On se tenait donc à carreau.
Sur le carreau, quoi.
Dernière explication, le carreau dans l'argot du 19e siècle désignait le domicile. La carre était la chambre. Ce carré était donc se mettre à l'abri en sécurité. Voilà, vous choisirez votre expression favorite, celle qui, selon vous, tombera le mieux à pic.
Oui, on jouera plus au poker de la même manière, Stéphane. On se retrouve à 16h, historiquement vôtre.
Oui, aujourd'hui, on réunit trois personnages qui ont vécu cachés dans l'ombre d'un géant. Le père Joseph, l'éminence grise dans l'ombre du cardinal de Richelieu. Auguste Maquet dans celle d'Alexandre Dumas, et un peu moins bien caché, faut l'avouer, René Angelil derrière Céline Dion. Bref, on vous raconte la petite histoire derrière la grande tout à l'heure, de 16h à 18h avec Mathieu Noël sur Europe 1.
A tout à l'heure Stéphane. 7h26, à suivre la météo, Laurent Cabrol, et un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echen. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et avec le vent, ça souffle vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, nous allons vivre une journée très agitée avec des vents de 100, 150, parfois 180 km/h sur les montagnes, mais en plaine entre 50 et 80. Et nous allons vivre une journée de pluie pour pratiquement tout le monde. La pluie est arrivée sur Paris, elle ne devrait pas quitter les Parisiens. Elle sera là sur le Champagne, la Champagne-Ardenne, la Normandie, la Picardie, le Nord. Il pleuvra, mais vraiment plutôt cet après-midi sur le Languedoc, les Cévennes et le Delta du Rhône. Nous aurons un soleil voilé sur la Bourgogne et la Lorraine et des éclaircies quand même en Alsace, Franche-Comté, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Attention, à Lyon, il fera presque beau. Les températures, c'est la grande douceur, entre 16 et 21 degrés, ça monte.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Ça va marquer, en fait, comme un test de grossesse, une seule barre négative. Et si on a deux barres transversales, là, on a un résultat positif.
Plus rapide que les tests PCR, ce sont les tests antigéniques. Ils sont en train d'être élargis. Les universités lancent des campagnes de dépistage. La gestion de la crise du coronavirus bousculée par la lutte contre l'islamisme après l'assassinat de Samuel Paty et un Premier ministre sur tous les fronts. Quatre jours après le drame, plusieurs associations sont dans le viseur du gouvernement, notamment le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Et puis concurrencer Netflix, OCS, Disney+, c'est le grand défi que se lance Salto, la plateforme de streaming Made in France voit le jour aujourd'hui.
Juste après ce journal, Sophie Mazet, enseignante, elle a publié une autodéfense intellectuelle aux éditions Robert Laffont, apprendre aux enfants à aiguiser leur esprit critique. Elle est l'invitée du Tête à Tête Europe Matin. L'édito politique avec Catherine Ney cette semaine, juste avant Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, qui alertait sur les dérives à l'école dès 2004. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une première depuis le mois de mai. La barre des 2000 malades du coronavirus hospitalisés en réanimation a été franchie. Le bilan s'élève à plus de 33 600 morts en France depuis le début de l'épidémie. Alors pour tenter de stopper la propagation du virus et toujours dans une logique de tester, alerter, protéger, le gouvernement renforce l'offre de dépistage en élargissant les tests antigéniques.
Moins fiables mais plus rapides que les tests PCR. Ils permettent d'obtenir un résultat en moins d'une demi-heure. L'université de Lorraine vient de lancer une campagne de dépistage directement sur le campus.
Une façon d'encourager les jeunes, souvent asymptomatiques, à se faire dépister. Mélina Fachin a assisté à ses premiers tests.
Bonjour. Pour le test, ce sera juste le bureau derrière vous.
Kevin, 23 ans, n'a aucun symptôme du Covid-19, mais quand il a vu qu'il pouvait se faire dépister directement sur son campus, il a sauté sur l'occasion.
Je souhaite retourner chez moi pendant les vacances. Si je suis asymptomatique, ou ça serait mieux de ne pas le transmettre, quoi.
Un infirmier lui met donc le fameux écouvillon dans la narine, comme pour un test PCR.
Rapprochez-vous un petit peu, peut-être un petit peu en arrière.
Un autre infirmier récupère l'échantillon et le pose sur une petite languette en plastique.
Ça va marquer, en fait, comme un test de grossesse, une seule barre négative. Et si on a deux barres transversales, là, on a un résultat positif.
Et à peine 5 minutes plus tard...
Kevin, c'est tout bon ? Voilà, c'est négatif, donc gardez bien les bonnes précautions, le masque et le lavage de mains régulier.
Esra, elle aussi étudiante, a eu le temps de faire son test entre deux cours.
Je connais des gens qui ont dû attendre des jours et attendre comme ça dans le stress et ne pas sortir. Là, c'était super.
Environ 300 étudiants et professeurs se sont fait tester hier. Deux cas de Covid ont ainsi pu être détectés. Et cette campagne de dépistage gratuite va durer toute la semaine sur tous les campus de l'Université de Lorraine. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
Plus de 250 000 morts en Europe. L'Irlande et le Pays de Galles reconfinent leur population cette semaine. Et puis le couvre-feu désormais décrété en Belgique et en Slovénie. En France, la mesure a déjà mené à plus de 3 000 verbalisations.
Une crise sanitaire, économique et maintenant sécuritaire avec l'assassinat de Samuel Paty vendredi. Des difficultés qui tombent en cascade sur le gouvernement. À Matignon, on tente de tenir le choc, Michael Darmon.
Oui, à Matignon, on martèle l'État tient malgré les coups de boutoir et les incendies qui se déclare un peu partout. Mais Jean Castex l'admet en petit comité. J'ai quelques heures de vol. Je savais que je serais exposé aux difficultés en acceptant ce poste, mais je ne m'attendais pas à cela. apaiser et relancer la France. Jean Castex veut croire qu'il est toujours possible pour lui de remplir sa feuille de route, qui prend des allures de mission impossible. Il faut à la fois se préparer à étendre les zones de couvre-feu en cas de dégradation de la situation sanitaire, tout en frappant fort et vite pour marquer les esprits dans la lutte contre l'islamisme, sans oublier de vendre un plan de relance aux entreprises, alors que le monde économique n'a pas de visibilité. C'est le brouillard, ce qui explique aussi pourquoi les Français ont du mal à percevoir la cohérence de son action.
Michael Darmon du service politique d'Europe 1.
4 jours après l'assassinat du professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine, l'enquête se poursuit. 15 personnes sont actuellement en garde à vue, dont 4 collégiens qui auraient désigné l'enseignant au terroriste.
Gérald Darmanin veut agir vite. Il a demandé la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis, dont l'imam avait relayé une vidéo qui dénonçait les cours sur les caricatures données par Samuel Paty. Le ministre de l'Intérieur souhaite également démanteler des associations jugées proches de la mouvance islamiste. Parmi elles, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France.
Créé en 2003, ce collectif vise, selon ses statuts, à lutter contre toute forme de discrimination à l'encontre des musulmans. Sur le papier, rien ne laisse penser que l'association est proche d'un islam politique, Justin Morin.
Oui, l'association, composée d'une dizaine de salariés, se présente comme n'importe quelle autre association antiraciste. Son but, recenser les actes islamophobes qu'elle juge sous-estimés et accompagner juridiquement les victimes. Bien identifiée sur les réseaux sociaux, elle traite une dizaine de signalements par jour. Mais c'est bien ce comité qui est dans le viseur de Gérald Darmanin pour l'ensemble de son œuvre, selon les mots de l'entourage du ministre. Ces dernières années, les positions du CCIF ont laissé planer le doute sur ses intentions. Par exemple, après l'attentat de Charlie Hebdo, l'association a apporté son aide à des imams controversés visés par des perquisitions. Plus tard, en plein débat sur le burkini, elle promet d'attaquer en justice tous les arrêtés municipaux interdisant ce maillot de bain qui couvre quasiment tout le corps. Son directeur Jawad Bachar se justifie.
Notre sujet, c'est pas de dire si c'est de la bonne moralité, de la mauvaise moralité, si c'est éthique ou si c'est pas éthique. Nous, au CCIF, on se bat pour les libertés. Sur le débat idéologique, il ne nous appartient pas à nous de nous prononcer.
Selon lui, les accusations du ministre de l'Intérieur ne reposent sur aucune base juridique. Il promet une riposte médiatique dans les jours à venir.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, nous sommes à 2 semaines pile de l'élection présidentielle. Donald Trump poursuit son marathon de meetings. Rendez-vous dans l'état clé de Pennsylvanie aujourd'hui. Suite de notre carnet de route avec Théo Manval dans le journal de 8h. Reportage au cœur des milices d'extrême droite du Michigan.
Et puis c'est le grand saut pour Salto, la nouvelle plateforme vidéo 100% française.
Ouais, elle était annoncée en juin 2018 et voit enfin le jour aujourd'hui. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors c'est un événement média, d'accord, mais est-ce que c'est aussi un événement pour les téléspectateurs ?
Alors a priori oui, 10 000 heures de programme estampillés TF1, France Télévisions, M6 sur une unique plateforme. C'est plutôt séduisant. Sur Salto, vous allez donc pouvoir retrouver tous les programmes de ces chaînes, l'intégralité des séries déjà diffusées comme Desperate Housewives, mais aussi des documentaires, des programmes jeunesse, une offre complète donc, avec également des avant-premières, des épisodes diffusés 48 heures à l'avance, des périodes de replay plus longues, et tout ça pour 6,99€ par mois pour un écran, jusqu'à 12,99€ par mois pour 4 écrans.
Est-ce qu'on peut imaginer que Salto rivalise avec les Netflix ou Disney+ ?
Vous êtes méchant Mathieu, réponse en chiffres. Budget de Salto, 250 millions d'euros sur 3 ans. 17 milliards sur un an pour Netflix, ça risque donc d'être très compliqué. D'ailleurs, Thomas Follin, le directeur général de Salto, préfère parler d'offres complémentaires et mise sur 1 million d'abonnés d'ici 3 ans. Le nerf de cette guerre médiatique, ce sont les exclusivités. Salto en propose quelques-unes, dont l'excellente série britannique de Stephen Frears, Quiz, qui raconte une tricherie dans Qui veut gagner des millions. Ironie du sort, il s'agit d'une vision très critique et cynique de la télé. Est-ce que l'identité sonore de Salto deviendra aussi puissante que celle de Netflix ? Pour l'instant, ça ressemble à ça dans les clips de présentation.
C'est joli.
Oui, c'est joli, très apaisant. À voir ce que ça donne alors. Merci beaucoup, Eva Rock.
Et j'ajoute que vous retrouvez Eva Rock sur son... J'ai pas eu l'occasion de vous le dire en vrai encore, Eva Rock. Super
oui.
Podcast, série lente, podcast
gentil,
produit par
Europe 1 Studio.
Je les ai tous écoutés, je le conseille à nos auditeurs.
Et puis on va parler foot pour terminer avec le retour de la Ligue des Champions ce soir. Entrée en lice de 2 clubs français, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester United au Parc des Princes. Et puis la grande première pour le Stade Rennais qui accueille les Russes de Krasnodar. Soirée spéciale sur Europe 1 à partir de 20h autour de Lionel Rousseau.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, invité d'Europe Matin à 8h15. Il est ce matin dans le rôle de celui qui avait raison avant les autres, Cassandre, qu'on n'a pas voulu entendre, un rapport de 2004 oublié. Un livre plus récemment, comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école? A-t-on mis la poussière sous le tapis? A-t-on laissé l'islam politique prospérer? Jean-Pierre Aubin répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Tout de suite, et c'est lié, les enfants, comment leur parler? Comment les écouter aussi? L'enseignante Sophie Mazet, invitée du tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Samuel Paty est mort au soir des vacances scolaires. Pendant deux semaines, l'émotion, l'enquête. Et après, il faudra bien parler de ce drame avec les élèves. Reprendre le flambeau aussi, la liberté d'expression. Pour mon invité, penser, ça s'apprend. Elle est enseignante en Seine-Saint-Denis, dans le concret du débat d'idées avec les élèves. Sophie Mazet, qui publie « Autodéfense intellectuelle, le retour » aux éditions Robert Laffont.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Mazet.
Bonjour.
J'ai voulu vous inviter ce matin parce que vous tenez un discours de vérité aux enfants, aux ados, et qu'on a besoin de comprendre avec eux. Ce sont les vacances scolaires, vous allez vous retrouver dans deux semaines, on a le temps de réfléchir, mais en ce moment, les enfants, ils se parlent. Nous, on est sur les plateaux, on leur tend des micros, mais ils se parlent entre eux. Que pensez-vous qu'ils se disent ?
J'en ai absolument aucune idée. Je pense que la plupart doivent être totalement horrifiés de ce qui s'est passé, doivent se dire... Oui, je pense que ça doit être principalement de l'horreur, en fait.
Et de l'émotion.
Et ouais, je pense. Oui.
La figure du prof avec vous ce matin, il y a vos livres et votre pratique, ces ateliers d'autodéfense intellectuelle que vous animez avec des lycéens. Alors, à l'origine, vous parlez beaucoup de complotisme, de fake news, de réseaux sociaux. Vous affirmez vouloir développer leur esprit critique.
Alors, j'essaye. C'est-à-dire que mon but n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent penser, mais de leur proposer une méthode pour apprendre à penser sans trop se fourvoyer, sans trop être victime de préjugés, de biais. C'est méthode, en fait, une méthode.
Comment est-ce que vous procédez ?
C'est compliqué. Ça se passe sur un an, en fait, et on commence par travailler sur le pouvoir des mots, sur les connotations des mots et sur ce que la charge d'un mot veut dire, la charge, le sens, etc. Puis après, on travaille sur les arguments. Donc, j'essaie de partir de la plus petite unité, le mot, d'aller ensuite dans la phrase, et puis après, on travaille de façon thématique. Et c'est là qu'on va aborder les fake news, les théories du complot, les mécanismes sectaires, des choses comme ça. Donc, j'essaie de faire dans l'ordre, en fait, de leur donner des outils en partant de l'outil le plus simple vers des outils un petit peu plus complexe.
Vous utilisez l'humour aussi?
Alors j'essaye parce que sinon, déjà parce que c'est ma façon de procéder, puis ensuite le fait de travailler sur ces questions qui sont parfois un peu délicates, en fait ça passe pas vraiment si on n'a pas établi une confiance avec les élèves avant. Et pour moi, l'humour, ça sert un peu à ça aussi. C'est-à-dire que si on a ri ensemble, si on a passé de bons moments ensemble, en fait c'est beaucoup plus simple après.
Y compris de questions graves? Vous arrivez à rire avec eux de sujets sérieux?
J'essaie, oui. Par exemple, sur les sectes, on travaille beaucoup là-dessus et on essaie de le faire de façon...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je leur propose, par exemple, d'analyser le mécanisme de recrutement des sectes et après, de passer à l'action, c'est-à-dire de créer une secte fictive et de devenir gourou. Donc, il y a quelque chose de drôle là-dedans parce qu'ils s'amusent, hein, ils inventent des personnages de gourou, etc. Mais tout en décortiquant très clairement la rhétorique des sectes, en fait, et leur mécanisme d'embrigadement. Et 9 fois sur 10, à la fin de ce cours, ils me demandent si Daesh, c'est une secte. Parce qu'ils se posent des questions sur ce qui se passe dans l'actualité aussi.
Évidemment qu'ils se posent des questions. Alors, dans l'actualité, Jean-Michel Blanquer veut un message fort à la rentrée. On a entendu dans nos journaux aussi Renaud Muselier, qui représente les présidents de région, qui veut éditer un livre de caricature. À partir de ces directives, de ces supports éventuellement, je vous demandais comment vous leur apprenez à penser par eux-mêmes. Comment est-ce que, éventuellement, vous mesurez la réussite de votre travail ?
Alors c'est extrêmement difficile à mesurer. On peut pas vraiment, à part quand les élèves remercient, quand ils continuent de venir. À part là-dessus, c'est pas vraiment mesurable en fait, et c'est un pari. Enfin, c'est un saut dans le vide qu'on fait tout le temps en fait, qu'on fait tout le temps en cours aussi.
Vous avez des retours, cela dit, de leur part après ?
Ah oui, après ils écrivent des années après. On s'écrit quand même un petit peu, on garde contact. Mais ça, je pense que c'est vraiment tous les cours de beaucoup de profs en fait. Et quant au livre de caricature, etc., la volonté de notre ministre, j'ai envie de dire qu'on n'a pas attendu ça très très loin de là, et que heureusement qu'on n'a pas attendu ça pour continuer à faire ce qu'on fait, parce que je suis pas sûre que ce soit ça dont on a besoin.
Une méthode de travail pour finalement apprendre à réfléchir, apprendre à penser. À partir de là, concrètement, on peut parler de religion, de ces caricatures, de ces sujets qui, disons-le, qui fâchent ?
On peut parler d'absolument tout. si... Alors, je ne vais pas dire si c'est bien fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui le font très bien et où ça ne se passe pas bien. Mais je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Et il faut parier justement sur le fait qu'on va arriver à débattre avec les élèves et que les choses ne vont pas être bloquées. Là, c'est pas dans le cas de Samuel Paty, ce n'était pas avec les élèves que les choses ont été bloquées, c'était à un autre niveau.
Alors justement, parce qu'avec vous, on est dans ce sanctuaire école. Ces élèves, ils ont aussi une vie extérieure. On l'a bien vu à Conflans-Sainte-Honorine, il y a des influences, il y a les réseaux sociaux, il y a ce père de famille qui publie cette vidéo contre Samuel Paty. Cet influenceur, comme on dit poliment, cet agitateur, c'est Fréoui, qui a mis de l'huile sur le feu. Le risque, finalement, vous êtes enseignante, le risque n'est-il pas que le discours de ces gens-là résonne plus fort que le vôtre ?
Alors, le discours de ces gens résonne très fort. Ces gens sont, ils font de l'entrisme, ils sont habitués. C'est Fréoui, c'était pas son coup d'essai, très loin de là. Donc oui, c'est un vrai risque.
On a vu qu'il évoluait dans une mouvance associative, entre guillemets, influenceur. Vous avez été, vous, confronté à ce genre de résistance dans votre travail ?
Oui, j'ai été confrontée, effectivement. Mais encore une fois, c'est avec les élèves, ça se passe plutôt vraiment bien. Et globalement, en fait, ce qui fait tout tenir, en fait, c'est quand on a un soutien de notre hiérarchie. Alors, au niveau des chefs d'établissement, nous, on est bien, les chefs d'établissement nous soutiennent là où j'enseigne. Mais le soutien de la hiérarchie, la cohérence, la cohésion de l'institution, en fait, c'est essentiel. Et je pense que là, ça a été un gros problème dans ce qui s'est passé pour notre malheureux collègue.
Au-delà du cas Samuel Paty, vous dites que les directeurs d'établissement, si je vous suis bien, vous suivent.
Alors,
comme
moi,
ils devraient le faire.
Là où je suis, en tout cas, après, je ne peux pas
D'accord.
faire de généralisation.
Vous êtes enseignante en Seine-Saint-Denis, mais c'est quoi ? C'est l'institution qui fait défaut ?
C'est au niveau des rectorats et au-dessus, en fait. C'est-à-dire que quand on nous parle de porter les valeurs républicaines, quand on nous parle de porter les valeurs de la liberté d'expression, la laïcité, etc., j'ai l'impression que ça sonne creux quand on n'est pas sur le terrain et que finalement, nous sur le terrain, on le fait. Et on le fait parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais toutes ces injonctions qui viennent de plus haut alors qu'on n'est pas soutenu, finalement ça sert absolument à rien en fait.
C'est un rôle pivot que le vôtre, c'est pour ça que je suis ravi de vous recevoir en tant qu'enseignante. Parce que vous avez donc ces résistances, ou en tout cas... ne vous sentez pas assez soutenu du dessus. Des résistances auprès des élèves, il y en a aussi. On en avait beaucoup parlé juste après les attentats de janvier 2015.
Il y en a tout à fait. Mais à la limite...
Comment on les gère ? Parce que là,
ça,
vous allez vous retrouver peut-être dans deux semaines, pardon, le 2 novembre, avec des élèves qui vont vous dire « Oui, mais madame, les caricatures, j'ai été blessé, etc. » Ce genre de débat-là
bien
qu'on
sûr.
A pu...
Bien sûr, mais
comment
ça,
on
c'est...
gère ça ?
Bah, c'est important qu'ils puissent commencer par le dire déjà en fait. C'est-à-dire que si on leur dit « Non, tais-toi, tu peux pas dire ça », bah, c'est un peu l'inverse de la pédagogie en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire et puis à partir de là, on discute. Alors je dis pas que ça se passe forcément bien et je dis pas non plus que nous, les enseignants, on est exempts d'émotions, surtout dans ce genre de cas, mais c'était pareil lorsque, après les attentats de Charlie Hebdo et l'hypercacher, on était vraiment beaucoup... on était... tous dans l'émotion, tous, et on a accueilli ça aussi en tant que personne humaine, seulement en tant que prof, on n'est pas non plus des robots. Donc je dis pas que c'est pas compliqué, mais en même temps, les élèves, ils sont dans leur rôle de questionner, de pas être d'accord, ils ont le droit et c'est normal, ils sont en formation.
Il faut les encourager dans cet esprit
sûr,
critique.
Il faut, de toute façon, le pire qui puisse arriver, c'est de rompre le dialogue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un élève voudrait dire, ben voilà, quand même, ils n'avaient pas publié les caricatures, etc. Mais je préfère mille fois qu'ils le disent en cours plutôt que de ne pas le dire, ce qui serait beaucoup plus inquiétant.
Vous dites dans La Croix, ce matin, le journal La Croix, faire le pari de leur intelligence, c'est un pari ?
Bah, c'est un pari parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Oui, c'est un pari, mais c'est un pari qui est gagnant, en fait, la plupart du temps.
Merci Sophie Mazet.
Merci.
Merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions en direct. Votre dernier ouvrage, Autodéfense intellectuelle, Le Retour, parce qu'il y avait eu un match aller, c'est un lexique pour esprit critique chez Robert Laffont. Merci Sophie Mazet. Il est 7h48 sur Europe 1. Enfin, le déclic dans la lutte contre l'islamisme radical, c'est ce que dit Catherine Ney, l'édito politique, avant de retrouver Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
L'édito politique avec Catherine Ney cette semaine. Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La décapitation d'un professeur par un terroriste islamiste a suscité une telle vague de colère, d'indignation, d'écœurement que le président Macron ne peut plus s'en remettre aux mots. Pour vous, il doit agir, il veut agir. Vous dites très bien, le pays attend.
Oui, parce que l'horreur de cet assassinat a créé un choc national, une prise de conscience. Oui, la lutte contre l'islamisme est le combat de notre époque. Qu'un Tchétchène de 18 ans, vivant à 80 km de Conflans-Sainte-Honorine, ait pu passer à l'acte démontre l'intensité et la puissance de persuasion de la propagande islamiste sur les réseaux sociaux, sans doute avivée par le discours du président contre le séparatisme islamique. Le ministre de l'Intérieur est déjà passé à l'acte, perquisition dans 12 départements, action coup de poing, dissolution du collectif contre l'islamophobie CCIF et de Barka City, qui sont des harceleurs islamiques, fermeture de la mosquée de Pantin et expulsion de 231 étrangers suivis pour radicalisation. Ils sont environ 800. Alors, c'est vrai que le ministre n'a pas attendu la tragédie de Conflans pour se rendre au Maroc et donner une liste de 9 noms à ses homologues. Eh bien, reprenez-les, mais personne n'en veut. Donc, il va falloir négocier. Le ministre ira en Algérie, en Tunisie, mais il ne suffit pas de claquer les doigts, ça va être difficile.
Mais pourquoi c'est si difficile, ces expulsions ?
Mais parce qu'en réalité, la France a baissé la garde depuis plus de 30 ans. En 77, on en expulsait près de 6 000. Vous vous rendez compte, des étrangers dont on ne voulait pas. Chiffre qui a dégringolé à partir de 81, un peu plus de 1 000, sans polémique. On peut dire que la gauche emporte très largement la responsabilité. Et aujourd'hui, les 3 quarts des expulsions ne sont pas exécutées.
Donc ce que vous dites, Catherine, c'est que passer de l'intention au résultat, c'est pas gagné.
Oui, parce que l'État a perdu par négligence le terrain gagné par les prédicateurs islamistes. Peu à peu, le ver s'est installé dans le fruit, voile, burkini, menu halal, séparation des filles et des garçons dans les piscines, refus des maris de laisser examiner leur femme par un homme dans l'hôpital. L'éducation nationale a cédé pour ne pas faire de vagues.
Comment faire ?
Il faut que l'État muscle son arsenal juridique, qui est un ventre mou. Que le Conseil constitutionnel ait censuré une loi qui voulait encadrer les terroristes à leur sortie de prison est une preuve de leur grande cécité. Donc il faut revoir la loi, revoir le droit d'asile. La France a toujours été très généreuse, mais depuis les années 80, on accepte des gens qui n'adhèrent pas à nos valeurs, d'où les problèmes d'aujourd'hui. Et puis il y a les mineurs isolés qui arrivent chaque semaine, comme ça, d'Italie, par avion, du Maroc, grâce à des passeurs qui font fortune, qui les dispatchent dans les départements, où dès leur arrivée, ils réclament aussitôt leur droit à être nourris, logés, formés, payés. Ils sont 40 000 aujourd'hui, pour un coût de 2,5 milliards pour les départements. C'est dire au gouvernement qu'il va falloir avoir bien du courage pour assainir le terrain.
Catherine Ney, l'édito politique. Merci Catherine, il est 7h54.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Et comme tous les jours, à cette heure-ci, Nicolas Cantelou, coach, conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Sonia reçoit Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ». Et c'est bien sûr, tiens, notre ministre de l'éducation nationale qui est venu coacher l'invité.
Oui, bonjour Monsieur Bélair, bonjour Madame la directrice bonjour. De l'école Catherine Ney, au doyen du rectorat Monsieur Cabrol. Écoutez, en temps normal, vous le savez, enseignant c'est le plus beau métier du monde, si on exclut bien sûr, si on exclut la pandémie mondiale et le terrorisme à l'école, tout va bien à l'école. Du coup, pour me remonter le moral, j'ai lu, oui, le livre de Jean-Pierre Aubin. Et en le refermant, je me suis dit, c'est terrible l'état dans lequel est l'école à Kaboul. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il parlait de la situation en Île-de-France. Bon, écoutez, je vais tenter de vous aider chacun et chacune. Je vais aller à la pharmacie juste en bas. Je ramène des petites pilules bleues et roses à tout le monde. On va en prendre 5 ou 6 chacun avant l'interview de M. Aubin. Il va nous falloir au moins ça. À part ça, je vais bien. Tout va bien.
C'est signé Nicolas Cantelou, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit donc Jean-Pierre Aubin, lanceur d'alerte, hein, dit-on de Jean-Pierre Aubin, aujourd'hui après ce rapport enterré de 2004, ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presse. 7h58 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Avec deux notions importantes aujourd'hui à retenir, le vent et les températures plus douces. Alors la douceur, nous la ressentirons surtout cet après-midi, 16 à Paris et Lille, 17 à Dijon et en banlieue parisienne, 18 à Nancy, Clermont-Ferrand, Épinal, à Nice, Caen, Bordeaux, Rennes, Limoges, Nevers, Toulouse, Lyon, Niort, entre 19 et 20, et 21 à Marseille, et même peut-être 22, 23 du côté de Biarritz, là rien n'est moins sûr. La pluie est là, la pluie est arrivée cette nuit, le Nord, la Picardie, la Normandie, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charente, l'Aquitaine, le Pays Basque seront touchés par ces pluies tout au long de la journée, peu ou prou. Le vent d'outan souffle très fortement, je parlais du vent, 100 km/h sur les Pyrénées, 160 km/h. Des pluies fortes cet après-midi à prévoir sur les Cévennes, le Delta du Rhône et le Languedoc. Un ciel voilé sur la Bourgogne et l'Auvergne, j'oublie personne. Si, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et la région PACA avec des éclaircies. Voilà pour l'essentiel.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Tous les matins, je me réveille en disant « c'est un cauchemar, c'est pas possible, ça ne s'est jamais passé comme le papa l'a dit ».
Les vérités d'une mère de famille accablée par l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Sa fille, à elle, était bien présente lors du cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression. « Je vis avec une culpabilité », dit-elle au micro d'Europe 1. Comment n'a-t-on pas vu venir la radicalisation du tueur, pas repéré par les services ? Le point sur l'enquête et la responsabilité des réseaux sociaux, mise en avant une nouvelle fois, réceptacle des images les plus insupportables et des discours de haine. Dans ce journal, des civils armés qui voulaient kidnapper la gouverneure du Michigan à quelques jours de la présidentielle américaine. Reportage avec ces miliciens qui manifestent, armes de guerre à la main. Et puis en football, voilà le mauvais souvenir Manchester United qui revient ce soir au Parc des Princes. Le PSG aura à cœur de montrer qu'il a appris la leçon.
Juste après ce journal, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur du livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école », auteur d'un rapport oublié en 2004 sur les dérives à l'intérieur des établissements scolaires. Jean-Pierre Aubin, au micro de Sonia Mabrouk, à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'hommage de toute une ville ce soir avant celui de la nation demain. Conflans-Sainte-Honorine, 18h30, devant le collège du Bois d'Aulne, une marche blanche à la mémoire de Samuel Paty décapité pour avoir montré une caricature à ses élèves.
L'émotion absolue ressentie depuis vendredi, elle est particulièrement douloureuse pour cette maman que nous allons entendre, Karine, dont la fille a vécu ce cours sur la liberté d'expression.
Lorsque la vidéo du parent d'élève, aujourd'hui au cœur de l'enquête, a été mise en ligne, elle est tout de suite montée au créneau.
Tous les matins, je me réveille en disant « c'est un cauchemar, c'est pas possible ». Parce que j'ai vu la vidéo du papa. Et oui, quand j'ai vu, j'ai fait « non, mais on peut pas laisser, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Je peux pas dire qu'il a montré une photo, or ce n'était pas une photo, c'était une caricature, qu'il a voulu viser des musulmans, or il n'a pas visé qui que ce soit ». Et j'ai fait partie des mamans qui ont tout simplement mis un commentaire en disant « ça ne s'est jamais passé comme le papa l'a dit ». Lui ne m'a pas répondu. Après, j'ai eu des commentaires très virulents. Donc samedi, je vivais un peu avec cette culpabilité. Hein. C'est comme si j'avais voulu sauver le monde, mais que j'avais pas réussi devant l'école. Donc, quand je suis arrivée, en fait, je me suis complètement effondrée. Et on a même été pris en charge par la cellule psychologique samedi. On m'a parlé puisqu'on voulait comprendre pourquoi je me mettais dans un état comme ça. Et j'ai expliqué tout simplement parce que j'avais l'impression de me sentir responsable de ne pas avoir réussi à le sauver, quoi.
Témoignage au micro Europe 1 d'Hélène Terzian.
Dans l'enquête judiciaire, à ce stade, 15 personnes sont en garde à vue, des proches du terroriste ainsi que le père d'une élève et même 4 collégiens sont entendus.
Reste cette question, comment n'a-t-on pas détecté le moindre signal suspect chez l'assaillant ? Gladys Laffitte nous résume ce que l'on sait.
La radicalisation du tueur serait passée inaperçue auprès de ses proches. Les services de renseignement non plus ne l'ont pas repéré. Pourtant, le jeune homme d'origine tchétchène s'exprimait beaucoup via les réseaux sociaux sur 4 comptes Twitter. Appel à la violence, paroles antisémites, des messages signalés directement à Twitter par des associations antiracistes ou alors transmis sur la plateforme Pharos, comme en juillet dernier. Signalement remonté à la DGSI qui ne s'est visiblement pas inquiété de l'homme derrière l'écran. Sur Internet, il a en tout cas visionné et relayer les vidéos du parent d'élève qui appelait à la mobilisation contre Samuel Paty. Ils sont même entrés en contact sans que l'on sache s'ils ont échangé sur le projet macabre du terroriste. Peu avant l'attaque, il a aussi eu des liens avec un ancien condamné pour terrorisme, aujourd'hui en garde à vue. Parmi les questions que se posent aussi les enquêteurs, a-t-il bénéficié d'une aide matérielle et financière ? Il disposait en tout cas d'au moins 300 euros, somme distribuée à des collégiens quelques heures avant l'attaque pour les inciter à lui désigner Samuel Paty.
Gladys Laffitte qui parlait des réseaux sociaux, les patrons français de 5 d'entre eux, les plus prisés, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Google, sont convoqués par la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, pour évoquer la lutte contre le cyber-islamisme.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
On entend souvent dire que ces géants du net ne font pas assez contre la haine en ligne. Qu'en est-il précisément ?
Bien sûr, le papier, les réseaux sociaux font de plus en plus d'efforts pour filtrer au mieux les contenus. L'an dernier, par exemple, on sait que Twitter a suspendu 270 000 comptes pour incitation à la haine et quelques 180 000 autres pour apologie du terrorisme. Chez Facebook, on fait savoir que 15 millions de contenus liés d'une manière ou d'une autre au terrorisme ont été sanctionnés depuis le début de l'année et 99% l'ont été avant même d'avoir avoir été signalés par la communauté.
99%, donc le problème, Clément, c'est le 1% qui reste.
Ah oui, hein, il suffit en fait de quelques minutes seulement pour qu'un contenu haineux produise son effet. Alors, la majorité a bien essayé de forcer les plateformes à mieux réguler la haine en ligne, mais la loi Avia a été vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel au printemps au nom de la liberté d'expression. Mais voilà, avec l'assassinat de Samuel Paty, un cap a été franchi. Ils se prennent pour les rois du monde, mais Facebook est un des plus grands complices du terrorisme, torpille un ministre de premier plan, ministre qui assure qu'il va militer activement pour sanctionner financièrement et de façon massive les réseaux sociaux en cas de manquement à leurs devoirs.
Merci Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis, débat demain soir entre Donald Trump et Joe Biden. Une innovation pour éviter que les deux candidats à la Maison Blanche s'interrompent trop souvent. Le micro de celui qui n'a pas la parole sera coupé à chaque fois pendant 2 minutes. Et justement, votre nouveau rendez-vous dans le journal de 8h jusqu'à la présidentielle américaine dans pile 2 semaines.
The American Election.
Le carnet de route de Théo Manval qui sillonne les États-Unis avec son micro Europe 1. Bonjour Théo.
Bonjour.
Le climat est ultra tendu en cette fin de campagne dans le Michigan où vous vous trouvez, puisque des milices d'extrême droite se font entendre et se font menaçantes.
Effectivement, Lansing, capitale de l'état du Michigan, le week-end dernier, des hommes en armes et tenues paramilitaires occupent les marches du gouvernement local. J'ai ma réserve de munitions et mon fusil d'assaut toujours chargé, explique ce membre de la milice pour la liberté du Michigan. Le mot d'ordre, les restrictions sanitaires liées au Covid sont un complot contre le peuple.
Je ne connais personne qui ait été contaminé par le Covid, mais je connais plein de gens qui ont perdu leur entreprise ou leur boulot à cause de ça. Tout est exagéré dans un but politique, c'est sûr, pour restreindre nos droits, toujours plus.
Alors qu'est-ce que tout cela vient faire dans la campagne présidentielle, me direz-vous? Eh bien, il y a 2 semaines, 13 de ces miliciens ont été arrêtés. Ils prévoyaient d'enlever la gouverneure démocrate du Michigan qui a déclaré l'urgence sanitaire. Une gouverneure que Donald Trump tacle à chacun de ses meetings. Get your schools open. Elle a été menacée, elle n'a qu'à rouvrir les écoles. Le président américain utilise en fait comme levier de sa campagne les mesures impopulaires prises localement contre l'épidémie par les États démocrates, quitte à encourager du même coup les groupes les plus dangereux, explique la chercheuse Amy Cooter, spécialiste de ces mouvances.
Lors d'un récent débat télé, il s'est adressé aux Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite, en leur disant de se tenir prêts. Ils l'ont pris comme un signal à passer à l'offensive si les choses tournent mal.
En clair, être prêt à l'affrontement en cas de tension après l'élection, si les résultats définitifs se faisaient attendre. Prendre les armes, oui, c'est possible, explique tranquillement ce milicien, mais seulement pour défendre des innocents. Les autorités redoutent même par endroits des incidents le jour du vote où des groupes armés viendraient superviser, entre guillemets, la bonne tenue de l'élection. Donald Trump la dénonce d'ores et déjà comme truquée s'il perd. De quoi nous dissuader d'aller voter, soupire cette électrice, complètement paniquée à l'idée de fusil sur le chemin de l'isoloir. Dans le Michigan, pour la première fois, tous les bureaux de vote seront directement reliés à la police.
Théo Manval, et je vous invite à aller sur le site d'Europe1.fr où l'on voit ces photos prises par Théo Manval, justement, de ces miliciens en armes qui manifestent. C'est assez impressionnant. Europe1.fr. Théo Manval, on vous retrouve tous les jours à 8h.
Et notez aussi le journal de la campagne américaine. C'est tous les soirs, 19h10. Xavier Yvon, en direct de New York.
Un premier reconfinement en Europe, c'est en Irlande. Pour 6 semaines, les commerces non essentiels fermés, restaurants uniquement à emporter, les écoles restent ouvertes. Reconfinement aussi au Pays de Galles pour 2 semaines à partir de vendredi soir. En France, il y a eu 19 000 contrôles de police liés au couvre-feu, 3 000 verbalisations selon Gérald Darmanin. Les services de réanimation retrouvent par ailleurs leur taux d'occupation du mois de mai. 2 090 patients s'y trouvent désormais.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, l'espoir d'une revanche parisienne sur Manchester United.
C'est terminé! Tout le monde exulte du côté de Manchester United! Les joueurs de Paris sont tous à terre!
Ils étaient à terre, ils se sont relevés. Ça, c'était en mars 2019. Le petit PSG a même bien grandi.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est donc ce soir, 21h, le retour de Paris en Ligue des Champions, 2 mois après une finale perdue face au FC Bayern. Voilà Manchester United qui s'avance et ça ne rappelle pas que des bons souvenirs, Julien Froment.
Un an et demi après, la cicatrice est encore ouverte. Le Paris Saint-Germain se souvient comme si c'était hier de ce fameux 6 mars 2019. Un pénalty litigieux en toute fin de rencontre provoqué par Kimpembe. Une défaite 3-1 contre Manchester United et une nouvelle humiliation sur la scène européenne. Mais depuis, Paris a bien rebondi. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel.
C'est pas un bon souvenir pour nous. Mais beaucoup de choses ont changé. On a fait une saison extraordinaire pendant la Ligue des Champions l'année dernière. Ça a nous donné beaucoup confiance. Maintenant, c'est le défi de recommencer de gagner.
Malgré les absences de Marco Verratti, de l'attaquant Icardi ou encore de l'Espagnol Bernat, Paris débutera sa Ligue des Champions avec ses deux joyaux, Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien, blessé en 2019, avait vécu le fiasco contre United depuis le bord de la pelouse. Quant à Mbappé, il avait tout simplement raté son match. Les deux savent désormais mais ce qu'il en reste à faire, une revanche à prendre contre les Anglais, un nouveau message à envoyer à l'Europe du foot et prouver que le parcours de l'été dernier était tout sauf un miracle.
Julien Froment qui sera ce soir au commentaire de ce match à 21h. On va suivre aussi Rennes qui reçoit les Russes du FC Krasnodar. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h autour de Lionel Rousseau et avec tout le service des sports d'Europe 1.
Et puis bonne nouvelle si j'ose dire, si vous vouliez un jour faire un petit tour sur la Lune, vous pourrez faire des selfies et les instagrammer aussi sec dès 2022. Nokia va installer un réseau 4G sur place, ça n'est pas une blague.
J'ai vu passer cette info.
Ça servira aux communications pour le projet de base lunaire permanente. C'est un projet.
Je voudrais qu'on creuse cette information parce qu'on aura le réseau 4G dès 2022, mais l'homme n'y retourne, on l'a raconté la semaine dernière, qu'en 2023-2024.
C'est des projets concurrents donc, pour allumer.
C'est pas exactement qui sera sur place. Merci beaucoup François Geffrier. Ça capte pas, on pourra dire ça depuis la Lune désormais. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h12, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité alerte depuis plus de 15 ans sur l'entrisme islamiste à l'école. En 2004, son rapport à ce sujet a été critiqué, rangé au fond d'un tiroir. Aujourd'hui, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, publie « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Il est notre invité.
A tout de suite sur Europe 1, 8h12.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'invité d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » aux éditions Hermann.
Bienvenue et bonjour Jean-Pierre Aubin.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Depuis plus de 15 ans, Jean-Pierre Aubin, vous tirez la sonnette d'alarme sur le déni dans l'éducation nationale. Quand vous entendez tous les débats, les indignations bien sûr légitimes, mais tous ces débats après la décapitation de Samuel Paty, comment vous réagissez ?
Ben, je réagis d'abord comme tout un chacun, c'est-à-dire par l'effroi, l'horreur de ce qui s'est passé à Conflans, et puis par la tristesse et la colère que pendant si longtemps on ait laissé l'islamisme pénétrer la société et pénétrer l'école, alors que chacun pouvait être averti de ce qui se passait en lisant le rapport de 2004 ou plus récemment en étant au courant des informations venant du Moyen-Orient et sur la littérature salafiste qui cible la France et en particulier l'école française et qui a appelé déjà en 2015 au meurtre des enseignants.
On était donc malheureusement, tragiquement avertis déjà.
Oui, bien sûr. On avait les moyens de savoir en tout cas.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a démenti, Jean-Pierre Aubin, le fait que l'institution s'apprêtait à sanctionner Samuel Paty du fait de ce cours autour des caricatures. Est-ce que vous avez de votre côté des exemples de professeurs désavoués par leur hiérarchie à cause de cours sur la tolérance ou bien la liberté ?
Oui, il y a des exemples en nombre. Dans mon bouquin de professeurs ou de chefs d'établissement qui sont soit laissés dans l'indifférence, soit même sanctionnés pour avoir appliqué ou avoir voulu appliquer les lois de la République dans leur établissement.
Un ancien recteur d'académie, je crois savoir, vous a écrit, Jean-Pierre Aubin, après l'acte barbare envers Samuel Paty. Que vous a-t-il dit précisément ? Jean-Pierre Aubin,
il m'a dit que, après la lecture de mon livre, Après la lecture de mon livre, qui l'a vraiment bouleversé, il m'a écrit que pendant 20 ans, il n'avait pas vu ce qui se passait, voilà, et qu'il faisait partie de ceux qui avaient été des aveugles devant le développement de l'islamisme, dans le déni.
Des aveugles, dites-vous, mais dans toute cette chaîne de lâcheté, de soumission aussi, qui est responsable? Est-ce qu'il y a également des responsabilités?
Oui, la première des responsabilités, c'est la responsabilité politique des ministres, des gouvernements, qui, depuis une vingtaine d'années, savaient et ont poussé la poussière sur le tapis pour ne pas avoir à traiter cette question difficile qui, d'ailleurs, divisait et la droite et la gauche de manière différente. Ça, c'est la première responsabilité. Elle est évidemment majeure. Il a fallu attendre 2015, la révélation qu'un très grand nombre de lycéens et de collégiens avaient perturbé les minutes de silence après les attentats de janvier 2015, certains prenant même le parti des assassins ouvertement, pour se rendre compte à quel point la jeunesse, et en particulier la jeunesse scolarisée, était pénétrée par cette idéologie de l'islamisme. Et puis depuis, on a des recherches, des sondages qui nous donnent un panorama beaucoup plus précis de cette pénétration et des effets sur l'école et sur les classes de cette imprégnation d'une partie de la jeunesse musulmane par l'idéologie islamiste.
Vous parlez, Jean-Pierre Aubin, des incidents, et le mot est même d'ailleurs, on peut parler d'incidents très graves lors des hommages après les attentats de janvier 2015 et en particulier des attentats de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il faut craindre également, il va y avoir bien sûr un hommage à la mémoire de Samuel Paty, est-ce qu'il faut craindre des incidents également à ce moment-là?
En tout cas, il faut prendre en considération.
Jean-Pierre Aubin, je vais préciser que vous êtes en direct depuis la Drôme, depuis votre domicile, où vous nous accordez cet entretien effectivement autour de votre rapport en 2004, rapport qui a été malheureusement enterré, rapport sur les conséquences de l'islamisme à l'école. Vous publiez aujourd'hui ce livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ». Vous tirez la sonnette d'alarme depuis plus de 16 ans. Vous n'êtes pas le seul, vous êtes l'un des lanceurs d'alerte. Et vous décrivez également dans votre livre, on va en parler dès qu'on va retrouver cette connexion, vous parlez aujourd'hui du cas, Jean-Pierre Aubin, de certaines écoles aujourd'hui de la République, quand les parents, apeurés pour leurs enfants, les retirent pour les placer dans le privé. Mais que reste-t-il? À quoi ressemblent ces écoles de la République aujourd'hui? Jean-Pierre Aubin, on va essayer de retrouver la connexion ce matin. Et si
c'est ce qu'on va
je
faire,
peux me permettre, Mathieu, peut-être dire ce qu'il y a dans ce livre et dans ce rapport que j'ai lu il y a plus de 15 ans, puisqu'à l'époque, on recevait dans les médias Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin qui nous décrivait déjà un séparatisme dans cette école et qui dit qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'intégration face à une telle archipélisation, que l'école ne peut plus intégrer les populations diverses de plus en plus nombreuses. C'est un véritable sonnette d'alarme qui est tirée et qui pointe également l'influence de l'écosystème islamiste dans le quotidien de jeunes élèves. Voilà, c'était il y a 16 ans. C'était important d'écouter aujourd'hui Jean-Pierre Aubin qui, Mathieu a été critiqué et ostracisé.
On va essayer de le retrouver hein, pour nos auditeurs, au moins pour le confort d'écoute. On va marquer une toute petite pause, comme on dit dans le jargon, et essayer de retrouver Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et nous avons retrouvé la ligne avec vous, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur de ce livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ». Ce matin, Jean-Pierre Aubin, je n'ai pas envie de savoir qui a enterré le rapport. Il y a une chaîne de lâcheté, une chaîne d'aveuglement, vous l'avez dit, politique. Mais si on plonge au cœur de l'éducation nationale, on sait que l'actuel ministre de l'Éducation ne ferme pas les yeux sur les atteintes à la laïcité. Mais est-ce que vous diriez, Jean-Pierre Aubin, que l'éducation reste encore dans le déni ?
L'éducation reste encore en partie dans le déni. Je ne parle pas du ministre et de son entourage, mais on a dans l'éducation nationale, dans l'administration et jusque dans les classes, une partie des enseignants, une partie des responsables qui sont dans le déni ou dans la complaisance par rapport à l'islamisme, dans la complaisance idéologique. C'est cette partie de l'extrême gauche qui est très présente dans l'éducation nationale, et qu'il pense que attaquer l'islamisme, c'est attaquer l'islam. Et donc, les élèves musulmans, étant des victimes, on ne doit pas avoir la même attitude envers eux qu'envers les autres élèves. Je donne toute une série d'exemples dans mon livre de cette complaisance idéologique.
Complaisance, dites-vous. Et à quoi ressemblent certaines écoles, Jean-Pierre Aubin, aujourd'hui, de la République, quand des parents, apeurés, on peut les comprendre pour leurs enfants, les retirent pour les placer dans le privé? Que reste-t-il? Quelle image reste-t-il dans certaines écoles de la République?
Il y a des écoles aujourd'hui où, effectivement, la ségrégation sociale, donc ethnique et religieuse, est nettement plus importante que celle du quartier. Des parents, par précaution, par mauvaise réputation d'un établissement, par peur de la population d'origine immigrée qui s'y trouve, vont choisir l'enseignement privé ou de déplacer leur enfant dans un autre établissement. D'ailleurs, souvent, cette migration des enfants précède la migration des parents qui déménagent du quartier pour aller dans un autre quartier. Ça a été le cas massivement des enfants juifs, puis des parents juifs, entre 1990 et aujourd'hui, puisqu'on sait que les deux tiers des enfants juifs ont quitté l'enseignement public pour aller vers le privé catholique ou juif.
Mais est-ce qu'on peut encore alors parler d'intégration face à une telle archipélisation? Est-ce que l'école peut encore intégrer, pour vous poser la question directement, des populations diverses de plus en plus nombreuses?
Bien, c'est tout le problème. C'est tout le problème de l'augmentation de la ségrégation dans la société et de la balkanisation, de l'archipélisation, dit Jérôme Fourquet, de cette société. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse intégrer à la nation, à la République et à la culture française des enfants qui vivent en autarcie, parfois sans avoir de contact, même à l'école, avec d'autres populations, d'autres cultures, d'autres religions que celles de leur famille et de leur voisinage immédiat. On a un exemple très précis, très parlant, c'est celui de Khaled Kelkal, qui est le premier terroriste français en 1995. Et donc, interrogé par un sociologue, il dit « Nous, au collège, c'était les Français qui s'intégraient. » Voilà. Et il était bon élève, il a été mis dans un grand lycée de Lyon, et là, il s'est retrouvé démuni face à cet entourage qu'il ne connaissait pas, à cette France qu'il ne connaissait pas, et il avoue, pour moi, c'est là que tout a commencé, c'est-à-dire son itinéraire terroriste, c'est à partir de cet isolement, de cette incompréhension où il se trouve, sans aucune préparation, sans aucune intégration dès qu'il arrive en seconde.
Jean-Pierre Aubin, quand le président de la République dit qu'ils ne passeront pas, vous qui êtes l'auteur de ce livre, comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école? Ils y sont déjà?
Oui, ben,
ils y sont déjà.
No pasarán.
Ah oui,
il reprend
sûr.
Le slogan des républicains espagnols. Et donc il désigne l'islamisme comme un fascisme.
Pour conclure, Jean-Pierre Aubin, il y a 16 ans, on vous recevait dans les médias. Je me souviens très bien de ce moment où on parlait de votre rapport qui a été enterré, qui a été rangé dans un tiroir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous faites partie de ces nombreux lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez précisément quand vous entendez aujourd'hui qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir un sursaut?
Je ne peux être que satisfait, que content de cette situation est très tardive, mais mieux vaut tard que jamais.
Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard?
Non, il n'est pas trop tard. Il faut bien prendre conscience que le combat contre l'islamisme est un combat de très longue haleine.
Et de plusieurs générations, disent certains.
Oui, des décennies, plusieurs générations. Marcel Gauchy dit, voilà, en Occident, le triomphe des Lumières a demandé 5 siècles. Bon. Et on est là, si on prend le nationalisme arabe comme le point de départ d'une tentative de sécularisation dans les pays arabes, on est là au début d'un processus, si on prend cette échelle de la longue durée.
Merci Jean-Pierre Aubin, merci de nous avoir accordé cet entretien et nos excuses aux auditeurs pour la mauvaise qualité de l'entretien, mais il était important d'écouter ce matin Jean-Pierre Aubin, l'un des lanceurs d'alerte, Mathieu, depuis plus de 16 ans.
8h29, merci Sonia Mabrouk, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info, Hélène Zélani et un nouveau point météo avec Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Jamais une campagne de vaccination contre la grippe n'avait démarré aussi fort. Non seulement les personnes les plus fragiles ont répondu à l'appel, mais aussi toutes les autres. Résultat, une semaine tout juste après le début de la campagne, 30% des pharmacies sont déjà en rupture de stock. Reportage de Laura Taouchanoff.
Dans un frigo derrière le comptoir, les boîtes de vaccins disparaissent à une vitesse éclair.
Il doit rester 3 doses disponibles, les autres elles sont pré-réservées.
Camille Lefranc, la titulaire de cette pharmacie parisienne, a commandé le double, mais tout est parti en 3 jours.
On a été obligés à un certain moment de prioriser nos délivrances. Ça nous est triste parce que on est des professionnels de santé et nous, derrière au comptoir, on dit aux gens des vaccins, c'est compliqué.
Vous avez la carte de la pharmacie ?
Et même pour les personnes à risque comme Daniel, il faut parfois faire plusieurs officines pour réserver son vaccin.
J'ai un peu plus de 70 ans. Je suis arrivée à la pharmacie qui m'a dit qu'elle était en rupture et qu'il n'y aurait pas de vaccin avant la mi-novembre. Je trouve ça déplorable.
Un manque d'anticipation des autorités publiques déplore Pascal Fontaine, le directeur commercial des pharmacies Lafayette.
De mars à septembre, il devait être capable de reproduire pour vacciner en masse la population. Ou alors on ne communique pas, on ne surcommunique pas sur le fait de se faire vacciner contre la grippe. Sinon vous créez un besoin auquel on ne peut pas répondre.
Et même si 6,5 millions de vaccins doivent encore être livrés, le groupe pharmaceutique prévoit une rupture de stock d'ici 10 jours.
Laura Taouchanoff. Pour le Covid, le cap des 2000 patients en réanimation est désormais franchi, une première depuis mai dernier. Et puis 24 élèves français et leurs 3 enseignants accompagnateurs sont en quarantaine dans un hôtel d'Athènes en Grèce. Ils devaient rejoindre l'île de Santorin, mais les tests ont montré qu'une accompagnatrice était positive. 4 jours après l'assassinat de Samuel Paty, un premier hommage ce soir, marche blanche qui partira à 18h30 du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Demain, hommage national dans la cour de la Sorbonne à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Et pour la rentrée des vacances, le 2 novembre, un temps de recueillement devrait être observé dans tous les établissements scolaires. Dans l'enquête sur l'assassinat de l'enseignant, 15 personnes sont toujours en garde à vue ce matin, dont 4 collégiens. Certains auraient reçu de l'argent du terroriste pour désigner Samuel Paty. En parallèle, l'exécutif lance un signal fort contre la mouvance islamiste. Fermeture de la mosquée de Pantin pour 6 mois et perquisition administrative dans toute la France. Précision de Chloé Triomphe.
Une quarantaine d'opérations ont été menées hier dans 12 départements, dont une grosse partie en Île-de-France. Des opérations qui vont se multiplier, indique-t-on dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, qui assume sa volonté de déstabiliser et harceler les milieux proches de la mouvance islamiste. Concrètement, ce sont à la fois des personnes fichées pour leur radicalisation, mais également des associations ou des groupements de personnes évoluant dans le même courant de pensée qui sont visées. C'est exactement ce qui avait été fait après les attentats de 2015. Parallèlement, les autorités ont aussi annoncé des dissolutions d'associations, ce que ces dernières dénoncent comme une intimidation. Une 50aine ont été recensées, comme Baraka City, association islamiste à but non lucratif, mais aussi le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France. Enfin, c'est dans cette même dynamique que Gérald Darmanin a décidé hier la fermeture de la mosquée de Pantin, qui avait relayé sur sa page Facebook une vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty.
Une fermeture de la mosquée qui devrait être effective dans les 48 heures. Et puis la Ligue des Champions, le retour, le PSG reçoit les Diables Rouges de Manchester United à huis clos. Au même moment, Rennes accueille les Russes de Krasnodar devant 5000 spectateurs. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h avec Lionel Rousseau.
Merci Hélène Zélani, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et une météo qui se résume en 3 mots, venteuse, pluvieuse et doucerette. Doucerette parce que les températures ont un peu augmenté, il fera entre 16 et 21 cet après-midi, 16 à Paris, 21 à Marseille, au passage 20 à Toulouse et Lyon et 18 à Nancy, Clermont-Ferrand et Pinal. La pluie, elle sera là quasiment partout. Ce ne sont pas des pluies permanentes, ce sont des pluies, disons, par épisode. Il y en a sur Paris, il y en aura sur Paris encore pratiquement toute la journée, sur la Normandie aussi, sur le Nord. Bref, le temps est à la pluie, où il le sera. Il va le devenir sur Languedoc, les Cévennes et le Delta du Rhône. Et puis les éclaircies quand même vont persister un tout petit peu sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région lyonnaise, la Provence, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Voilà pour le temps, c'est un temps qui change totalement avec ce que nous avons connu hier et ces jours derniers. Et nous aurons donc ce type de temps encore pendant 2 ou 3 jours.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Dans un tout petit instant, on prend soin les uns des autres sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
En cette période quelque peu pesante, vous allez nous expliquer ce matin qu'il existe un moyen simple de réduire son stress, Jimmy, en écoutant de la musique.
Et oui, et c'est scientifique. Rappelez-vous, je vous avais dit que face à une situation de stress, le système nerveux va mettre en place deux grandes façons de s'adapter. Un va sécréter de l'adrénaline, vous allez augmenter votre vigilance pour mettre toute votre énergie vers une riposte. Et un deuxième système, un système endocrinien qui va créer du cortisol, un cortisol qui en excès va être toxique pour votre système immunitaire, votre cerveau et votre cœur. Et bien figurez-vous que la musique agit sur ces deux systèmes. Ça va diminuer la sensation subjective de stress, ça va diminuer la production de cortisol, ça va diminuer votre tension artérielle et même votre fréquence cardiaque. Et ces effets ont été observés au laboratoire dans des situations qui ont simulé la présence d'un événement stressant, mais aussi en situation réelle avant une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire. Et attention, l'impact de la musique pourrait être plus fort que celui d'un anxiolytique. Vous savez, les médicaments qu'on donne pour le stress, une benzodiazépine. Donc, écoutons tous de la musique.
Mais est-ce qu'il y a un style de musique en particulier? Est-ce qu'écouter du Booba, ça marche aussi bien qu'écouter du Brassens?
Eh bien, écoutez, figurez-vous que d'autres études sont intéressées à ça et elles ont cherché à savoir justement est-ce qu'il y avait un impact du style musical. Est-ce que la musique classique était plus apaisante qu'une musique un peu de techno? Est-ce que le caractère dynamisant était plus efficace ou pas que quelque chose de calmant? Eh bien, d'une façon générale, la présence de musique est plus favorable par rapport à son absence, même si malgré tout, certains styles ont quand même de meilleurs résultats, comme la musique indienne de Ravi Shankar.
C'est pas le meilleur album de Booba.
C'est pas le meilleur album de Booba, mais malgré tout, c'est un côté
évidemment
relaxant. Alors, d'une façon générale, la musique, en fait, elle peut moduler l'activité du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une structure qui est responsable de plusieurs fonctions, comme la respiration et aussi le rythme cardiaque. Et en fait, ce tronc cérébral pourrait se synchroniser au tempo des musiques entendues. L'idéal, c'est d'avoir une playlist qui va varier un peu les styles. Et ce qui est plus efficace, c'est si l'utilisateur choisit lui-même ses chansons. Donc vous l'aurez compris, le dicton « la musique adoucit les mœurs » n'a jamais été aussi vrai. Écoutons tous de la musique et nous irons mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez en savoir plus en regardant le livre « La symphonie neuronale » écrit par Emmanuel Bigan. Et vous allez apprendre tous les pouvoirs extraordinaires de la musique sur notre stress.
Le docteur Jimmy Mohamed, médecin d'Europe 1. Merci Jimmy, 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, Fanny, vous vouliez nous parler de l'or noir. Ce n'est pourtant pas du pétrole dont il s'agit.
Non, pas du tout. Je vous parle d'une matière que l'on peut considérer effectivement comme de l'or. Je veux vous parler ce matin du fumier, c'est-à-dire des excréments, des animaux d'élevage qui, mélangés avec la paille des litières, reposent en tas dans les fermes. On peut le considérer comme une richesse, oui, car dans le temps, comme le dit très bien mon voisin et ami agriculteur, on pouvait mesurer la richesse d'un paysan à la hauteur de son tas de fumier. Ce tas de fumier avait une valeur telle que l'adage disait « qui vend son fumier, vend sa ferme ».
J'espère que Nicolas Canteloup écoute. À quoi peut bien servir ce fumier, Fanny?
Alors, le fumier entreposé à l'extérieur, ce mélange d'excréments et de paille va maturer, être décomposé par des vers de terre, des champignons, des micro-organismes, jusqu'à devenir une matière très intéressante, car elle va devenir un superbe fertilisant en fait. Ainsi, un paysan qui élève par exemple ses vaches va pouvoir fertiliser ses prairies en répandant ce précieux fumier pour que l'herbe pousse et que ses bêtes s'en nourrissent, et puis aussi faire du stock de bon foin pour l'hiver. Il peut également, par cette méthode, fertiliser d'autres champs de culture maraîchères ou céréalières.
Vous nous dites donc que même les végétariens finalement auraient besoin de l'élevage?
Alors, ça peut paraître un poil provocateur. Mais oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se passer d'engrais chimiques, c'est peut-être l'une des meilleures options. Si l'on regarde un petit peu dans le rétro et que l'on comprend comment fonctionnent encore certaines fermes et surtout comment fonctionnaient toutes les fermes à petite échelle auparavant, on s'aperçoit qu'il y a une complémentarité entre culture et élevage, que le système est circulaire, que la boucle est bouclée de l'animal au tas de fumier jusqu'au champ de culture. Et dans ce cas, pas besoin de chimie. Ainsi, La vache, par exemple, va pouvoir manger l'herbe qu'elle aura elle-même permis de produire grâce au fumier. Ce fumier qui pourra aussi permettre de faire pousser d'autres produits alimentaires végétales sans fertilisants chimiques. J'insiste sur ce point. Et le drame de notre époque, c'est que l'agrandissement des exploitations et surtout la spécialisation des territoires a entraîné une séparation avec d'un côté l'élevage et de l'autre les cultures végétales, nous condamnant à utiliser davantage de chimie pour stimuler les sols.
Merci Fanny Agostini. Je retiens qu'on peut mesurer la richesse d'un pays à la hauteur de son tas de fumier. Merci Fanny Agostini.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent. La revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Mais devinez quoi, ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, mon invité, Jean-Pierre Aubin, vous êtes ancien inspecteur général d'éducation nationale. Il y a 15 ans, 2004, vous alertiez dans un rapport sur l'islamisme, l'intégration de l'islamisme en France. Aujourd'hui, vous êtes une voix qui porte, une voix entendue, une voix écoutée, Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin ?
Oui, effectivement, il y a donc 15 ans, nous avions... pour le faire, et c'est un constat qui était pas pour les ensemble des professeurs qui difficultaient à...
Bon, oui, on alors, pas.
La liaison, vous l'avez compris, alors, je vais essayer de meubler avec ce que j'ai... J'avais lu en 2004, il y a 15 ans, j'ai fait mes devoirs déjà à l'époque, puisque j'avais lu le rapport de Jean-Pierre Aubin qui est intéressant, qui est passionnant. Et Jean-Pierre Aubin, vous nous... Ça y est, je pense que la liaison est rétablie. Merci à Jean Le Neuf d'avoir rétabli la liaison, Jean-Pierre Aubin. Vous nous confirmez donc ce constat que...
Alors, effectivement, nous...
Oui, parce que là, on ne sait pas si la liaison est mauvaise ou s'il dort, Jean-Pierre Aubin. Parce que... Alors, je vais expliquer quand même aux auditeurs. Il vit dans un bled dans la Drôme.
Non, stop.
Où il n'y a pas la 5G, peut-être pas même la 4 ni la 3. Il faut dire que Jean-Pierre Aubin fait tellement... C'est Beyoncé, il ne se déplace plus, Jean-Pierre Aubin.
Voilà. Beyoncé.
On a retrouvé Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin.
Oui. Écoutez.
Belle réactivité de Jean-Pierre Aubin.
Oui. Voilà, donc, no passaran.
Voilà, c'est une malédiction de Jean-Pierre Aubin depuis 2004. Il n'est pas entendu. No passaran, ni la voix de Jean-Pierre Aubin, ni la liaison.
Allez, c'est bon.
À vous, Julie.
Merci, Sonia. C'est malin d'insister comme ça. Allez, Mathieu Béliard, à vous pour les
questions. Oui, bonjour, bonjour. On a le droit de rigoler un petit peu. Merci. On prie Saint-Olivier Bonneuf, qui revient un jour. Bonjour, Mathieu Juy. Oui, c'était le grand directeur technique à l'époque. Voilà. Ça oui, marchait. Bon. Alors, c'est Mathieu, il va être content le nouveau. C'est Mathieu Béliard, pardon. Bon, bonjour, bienvenue à Europe 1. Bienvenue sur Europe 1, si vous nous entendez. L'info du jour, c'est la superbe, la plus belle chronique, certainement, depuis 2 ans de Fanny Agostini, qui a vanté le fumier et le cheval, qui est l'avenir de l'homme. L'info du jour, c'est Gérald Darmanin, qui a annoncé la dissolution. Non, mais... Allez, on redevient sérieux un petit peu, parce que tout ça n'est pas très écrit. C'est la dissolution annoncée du CCIF et de Baraka City. Oui, c'est Baraka, oui, Baraka City. Oui, c'est bizarre comme nom, ça fait un petit peu parc d'attraction. Hein. Ouais, c'est super, on a été à Baraka City avec les enfants, c'était super, on a enchaîné les loopings, on a mangé des pop-corns et on a fait du manège, le kiff. Oui, ça, c'est vrai, Julie, honnêtement, c'est vrai que ça sonnait pas vraiment comme un repère de djihadistes. Et puis l'autre info, c'est la garde à vue pour le père de l'élève. Qui a donné, reprenez-vous, Mathieu. Merde, Mathieu. Je me parle à moi-même. Oui, c'est le père de l'élève qui a donné l'adresse de Samuel Paty et le prédicateur Abdelhakim Sifraoui. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas se radicaliser en cellule, vu qu'ils sont déjà un chouille radicalisé. Oui, ben écoutez. En positif comme on peut. Allez, et puis, dernière info, c'est le marché de Noël, des Tuileries, à Paris, annulé à cause du coronavirus. Plus de verres de vin chaud, coupés à l'eau à 12 euros le verre. Plus de pain d'épices industriel qui reste collé aux dents pendant 3 jours. Laurent Cabrol m'en parlait encore l'année dernière. Plus de Santon de Provence, made in China, à 72 euros pièce, mais authentique. Salaud de virus, là. Il nous coupe de toute notre tradition.
Allez, c'est bon. Merci Mathieu Béliard. À demain. On va recevoir François Hollande qui, comme de nombreux responsables politiques, était présent place de la République.
Oui, peu de sérieux.
S'il vous plaît.
effectivement, j'étais présent place de la République, contrairement au président Sarkozy qui, lui, était en prison. Hein, enfin, quasiment, quasiment menotté. Et puis surtout, j'étais, vous l'avez compris, place de la République pour envoyer un message fort aux terroristes, pour que plus jamais ça.
Oui, enfin,
voilà, plus jamais ça.
Vous étiez place de la République en janvier 2015 pour Charlie.
Oui, et puis, c'est tout à fait exact.
Ben oui, et aussi en novembre 2015 pour le Bataclan.
Oui, oui, aussi.
Oui, et à chaque fois pour que plus jamais ça.
Voilà.
Hein?
Oui, pour que plus jamais ça. Voilà. C'est pas faux, votre analyse. Alors, disons que j'étais place de la République pour que plus jamais ça, jusqu'à, bien sûr, la prochaine fois. Voilà, là c'est plus juste si je le formule comme ça. Voilà,
oui.
Je me demande si je ne vais pas acheter un petit meublé à République. C'est peut-être plus pratique d'être sur place directement.
Bien, oui, allez. Oh là là. Merci, monsieur. Oula. Laurent Cabrol.
Oh là là. Encore du pain du pisco, le haut de l'hiver.
Allez, on va rester sur cet acte terroriste épouvantable. Quelle réponse pénale pour ce genre de crime ? Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Tout d'abord, comment qualifier ce crime ? Tout simplement.
Madame. C'est un crime odieux, madame.
Oui.
Ce sont les valeurs. Oui, les valeurs, j'ose dire le mot, les valeurs de la République. Que dis-je, les valeurs de la République ? C'est la République elle-même qu'on a tenté d'assassiner. Et nous ne pouvons pas, à l'heure qu'il est, rester les bras ballants devant ce que je qualifierais d'un ensauvagement. Oui, un ensauvagement de la société. Car oui, quand il y a décapitation, madame, on peut parler d'ensauvagement et de barbarie.
Mais dites donc, vous êtes gonflé, vous. Vous avez engueulé Darmanin quand il a utilisé le terme d'ensauvagement. Vous aviez parlé, vous, de sentiment d'insécurité.
Oui, madame. Hein? Oui, madame, devant vous, je fais mon coming out. Oui, je retourne ma veste. J'ai retourné ma veste. Mais madame, ce matin, je me suis levé avec ce que je qualifierais d'un sentiment d'avoir l'air con.
Ah, bah oui, justement, tiens, Gérald Darmanin est avec nous maintenant.
Oui, salut Eric. Bon, mon ami Eric. Donc, aujourd'hui, j'attends, vous l'avez compris, j'attends.
Pardon, que veux-tu dire, Gérald ?
Bah, c'était déjà pas mal, mais pas assez, mais pardon. Gérald, je suis...
Pardon, Gérald, je suis une petite crotte.
Mais voilà, tu vois, quand tu veux, tu peux dire des trucs intelligents, tu vois.
Eh ben c'est très bien, vous êtes réconciliés. Allez, bravo, merci à tous les deux. Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente depuis vendredi. On lui reproche le positionnement ambigu de certains députés France Insoumise vis-à-vis des islamistes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Allez-y, hein, faites votre joli métier. Hein, allez-y, relayez les accusations des menteurs qui veulent faire de moi un complice des islamistes. Hein, me faire ça à moi, alors que la République, c'est moi.
Oui, oui, on sait. Enfin, quand même, vous avez défilé en 2019 aux côtés de personnalités musulmanes notoirement controversées, qui faisaient porter à des enfants des croissants jaunes afin de faire passer l'idée que les musulmans de 2020 subissaient le même sort que les juifs des années 30.
Oui.
Tout gonflé, hein, quand même.
Oui, oui. Et alors c'est quoi ? Tout ce qu'on me reproche, c'est quoi ? C'est d'avoir manqué de subtilité ? Bon, d'accord, ok, j'ai manqué de subtilité. Mais tu m'avais vu, Leclerc, être subtil, hein. Je suis Jean-Luc Mélenchon. Je crie, je gueule, je menace. Voilà. C'est mon fond de commerce. Hein. Je traite mes opposants de fachos. La subtilité, c'est pour les gonzesses. Hein. Je m'appelle Méluche, moi. Hein. Je m'appelle pas Laurent Vouzy.
Vous avez fait une sortie remarquée sur les Tchétchènes qui posent, selon vous, un certain nombre de problèmes.
Mais déjà, t'as vu dans quel état ils ont mis Dijon, les Tchétchènes. Hein, maintenant, la ville, on dirait Dijon. Hein, c'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Voilà.
Et puis, vous avez déclaré, ils sont arrivés en France car le gouvernement français, qui était très hostile à Vladimir Poutine, les accueillait à bras ouverts.
Et allez, mais qu'est-ce que c'est que ce besoin aussi de critiquer Poutine ? Hein, ça, c'est comme Hugo Chavez. Hein, sous prétexte qu'un dictateur est communiste, on lui crache dessus. Et allez, c'est facile. Dès qu'on est communiste, on n'a pas le droit d'être totalitaire. C'est ça l'idée.
Oui.
C'est à vous d'écouter. Franchement, à vous d'écouter d'avoir le pouvoir.
Allez, merci Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Le lavage des mains, on y pense moins. C'est une étude de l'IFOP qui révèle que depuis qu'ils ont des masques, les Français se lavent moins. Alors que c'est primordial, bien sûr. Tout de suite, l'avis du docteur Simès.
Eh oui, bonjour Marina, bonjour à tous, bonjour à mon collègue Jimmy Mohamed. Vous venez de le dire, une étude IFOP vient de montrer que maintenant qu'ils ont des masques, les Français sont redevenus comme avant, c'est-à-dire des crados. La crise du Covid vient de nous permettre de mieux connaître les Français. Ils ne se lavent que si vraiment il y a danger de mort. Dès qu'ils se sentent protégés par le masque, c'est bon, ils peuvent redevenir des dégueulasses.
Mais enfin, quel rapport entre le masque et arrêter de se laver ?
Eh bien, c'est très simple, ma chère Marina. Quand on a un masque, on ne sent pas tout simplement qu'on pue. Voilà.
On ne sent pas qu'on pue.
Voilà. Et quand on a le Covid, c'est encore mieux. On perd totalement l'odorat. Alors là, c'est la fête. On n'est même plus obligé de prendre une douche. Vous avez compris mon raisonnement. Tiens la route. Allez, salut les crados.
Merci Nicolas Canteloup. Julie, à demain. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Évidemment, saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup, de la revue de presse. 8h56, Philippe Vandel est là. Culture Média, la matinée continue sur Europe 1, 9h, 11h. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour cher Mathieu. Notre info média du jour, c'est un anniversaire, les 25 ans d'une institution, la revue des pros de l'audiovisuel et du cinéma, Satellifax, vous connaissez ?
Oui.
Ils publient 30 à 50 articles par jour, ils sont seulement 12 à la rédac. Vous êtes abonné ?
Non, ça m'arrive de le lire ici.
L'abonnement coûte près de 5000 euros par an. Donc je me disais, si vous étiez abonné. Et le plus dingue, c'est que ça marche.
Non mais c'est professionnel.
Évidemment.
On reçoit pas ça à titre perso, mais je lis parfois du Satellifax.
Évidemment, ce sont les marques qui sont abonnées. On demandera tous les secrets de fabrication à Joël Virtel, fondateur et directeur de Satellifax. Non, mais que les gens n'imaginent pas qu'on puisse se payer un abonnement à 5000 euros à l'année.
Non, parce qu'il y a déjà Netflix, Mediapro. Pardon, continue.
Ouais. Marianne James ensuite pour le retour de la 15e saison de La France, un incroyable talent. Et on sera aussi avec un petit nouveau, il s'appelle Pierre-Antoine Damcourt. Il est très drôle et il présente l'after. Ça s'appelle La France, un incroyable talent, ça continue. Et puis enfin, on va s'aimer à l'italienne. En compagnie, oui, de Frédéric François. Un Olympia, un nouvel album, une tournée européenne, il sera là.
Mais vous chantez, Philippe ?
Non, pas du tout.
Il chantera, Frédéric François. Chantera, ouais. Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h sur Europe 1. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très très belle journée.
Pareil.
Je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.